L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Ce moment. Amen. Alors, combien de personnes sont prêtes à recevoir la parole de Dieu? Amen. Ce matin, ce que j'avais à cœur de vous amener, c'est un message de base, mais un message très important. Je crois que, surtout au Québec, on a besoin d'entendre ce message plusieurs fois. Et vous savez, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et des fois, on peut se dire, bien, j'ai déjà entendu un message, mais je crois qu'on a besoin de l'entendre jusqu'à temps qu'on le vive à 100%. Amen. On a besoin de l'entendre jusqu'à temps que le message devienne qui nous sommes. Et vous savez, en anglais, on dit « you are what you eat ». En français, on pourrait dire « vous êtes ce que vous mangez ». OK? Mais c'est pareillement au niveau spirituel. Vous êtes ce que vous entendez. Vous devenez ce que vous entendez. Si vous entendez des paroles négatives sur votre vie, si vous entendez des paroles de tradition qui vous dit que Dieu veut que vous soyez malade, que Dieu veut vous appauvrir, que Dieu veut détruire vos vies, comme on entend parfois, pas aussi cru, mais souvent c'est le message qui est véhiculé dans nos églises. Si vous entendez des messages comme ça, vous allez récolter ces messages-là dans vos vies. Au contraire, si vous voyez la parole de Dieu et vous entendez les promesses de Dieu concernant comment Dieu veut rencontrer tous vos besoins selon sa richesse avec gloire, si vous entendez les messages qui vous disent que Dieu veut vous guérir, Dieu veut vous transformer, Dieu veut vous augmenter, bien là, votre foi va être stimulée pour recevoir ça dans vos vies. Amen. Alors, on a besoin de l'entendre. Et des fois, il y a des gens qui peuvent dire, « Wow, mais j'ai déjà entendu ça. » Oui. Est-ce que vous avez déjà mangé un bon morceau de gâteau au fromage? Mais là, quelqu'un pourrait dire, ben, j'en mangerai pas un deuxième parce que j'en ai déjà mangé du gâteau au fromage. Mais moi, j'aimerais ça d'en manger à tous les jours si c'était possible. Parce que le plus qu'on en mange, le plus qu'on aime ça. Amen. En tout cas, dans mon cas, moi, le dessert, j'aime beaucoup le dessert. Mais on a besoin de se nourrir avec la parole de Dieu jusqu'à temps qu'on le vive à 100%. Amen. Alors, ce matin, le thème, c'est la parole de foi. C'est un message simple et c'est le message de cette église. On prêche un message et on prêche tout le conseil de Dieu, mais notre emphase vraiment, c'est sur la parole de foi dans la parole. Amen. Alors, on va vous inviter à simplement pencher vos têtes ce matin, on va prier pour la réception de ce message dans vos cœurs. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta parole qui change des vies. On te remercie, Seigneur, même pour le témoignage qu'on a entendu ce matin, comment il y a des milliers de personnes qui se convertissent, Seigneur Dieu. On te remercie, Seigneur, pour ce grand ministère, Seigneur, que tu fais partout à travers le monde. Et on est tellement reconnaissant, Seigneur, d'en faire une partie. On fait partie, Seigneur, de ton œuvre sur la terre. On se réjouit là-dedans. Et on te remercie, Seigneur, d'être ici parmi nous ce matin et de nous donner les oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Et on a prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous inviter à tourner dans Romains chapitre 10, versets 8 à 11. Romains chapitre 10, versets 8 à 11. Et même avant de vous parler un petit peu de ce texte-là, je peux vous dire la première fois que j'ai entendu parler du message de la foi. Je l'ai entendu sous la forme d'une critique. Les gens me parlaient contre ceux qui enseignaient la foi. Il y avait des gens qui disaient, vous savez, ceux qui prêchent la foi, c'est des personnes qui veulent toujours développer leur foi, OK, et puis sont déséquilibrés. Sont déséquilibrés, c'est comme s'ils ont trop de foi. Mais moi, j'aime ça être déséquilibré et avoir trop de foi. Parce que vous savez, Dieu dit que c'est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir trop de foi? Moi, j'en veux plus. Oui, il y en a qui peuvent dire, il y a hyper faith, OK? Ou c'est comme exagéré, cette foi exagérée. Mais moi, j'en veux le plus possible. Rendez-moi le plus hyper que vous voulez. Le plus, moi, je veux avoir toute la foi. Pas la présomption, mais la foi dans la parole de Dieu. Amen. C'est ça, ce qu'on prêche ici, c'est le message de la foi. Mais ce message-là de la foi, c'est basé sur quoi? C'est toujours la parole de Dieu. Ça revient toujours à ça, la parole de Dieu. Et alors moi, j'ai entendu des gens critiquer. C'était des pasteurs qui critiquaient ceux qui enseignaient la foi. Et puis là, moi, qu'est-ce que ça a fait? Ça a piqué ma curiosité. Et j'ai dit, OK, ben, je vais aller voir vraiment, c'est quoi qui prêche ce monde-là, qui sont si terribles? Alors, j'ai commencé à entendre des messages. Entre autres, je pense que la première que j'ai entendue, c'était Gloria Copeland, qui prêchait comment Dieu voulait qu'on soit guéri. Alors, moi, j'ai écouté une émission, deux émissions, trois émissions, quatre émissions, et finalement, il y avait une chose que j'ai remarquée. Oui, en effet, il y avait la foi, mais à chaque fois, c'était la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Pendant toute l'émission, c'était que des versets de la parole de Dieu. Et là, je me suis dit, ben, finalement, ceux qui critiquaient toujours ces genres de ministères-là, qu'est-ce qui nous amène? C'est leur parole, leur parole, leur parole, au lieu de la parole. Et moi, vous savez, si on vit un problème dans notre vie, est-ce qu'on veut entendre la parole d'un homme qui nous amène la critique contre les autres? Ou est-ce qu'on veut entendre la parole de Dieu qui peut nous changer, qui peut changer nos vies, qui peut nous donner la solution qu'on a besoin? Dans notre cas, dans notre famille, ce qu'on a fait, nous, quand on avait des besoins et quand on a encore, on va se remplir des enseignements de la parole qui sont basés sur la parole, pas juste des enseignements de commentaires ou de la critique. Vous entendez la critique, vous allez devenir critiqueux. Alors, il faut protéger nos oreilles et entendre ce que Dieu veut pour nous bâtir, nous construire. Amen. Donc, ici, dans Romains 10, chapitre 8 à 11, il est écrit, « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Ici, nous savons que l'apôtre Paul prêchait la parole de la foi. Mais cette parole de la foi-là, c'est quoi? C'est basé sur quoi? C'est quoi le message dans la foi? Bien, le message de la foi, c'est simplement la foi en Christ. C'est pas la foi en nous-mêmes ou dans des formules, c'est la foi en Jésus-Christ. Mais on va dire, oui, mais toutes les églises enseignent ça, Joël, la foi en Jésus-Christ. Oui, je peux vous dire, en général, toutes les églises enseignent la foi en Jésus-Christ, mais il y a une chose qui fait la différence. La prochaine chose qu'on doit comprendre, c'est ensuite la foi en sa parole. C'est de croire ce que Dieu dit en réalité. C'est d'arriver au point où ce que Dieu a dit dans sa parole, non seulement ce que j'ai la foi en Jésus, mais j'ai aussi la foi dans qu'est-ce qu'il a dit. C'est toute une différence. On peut avoir la foi en Jésus et ensuite lire la parole de Dieu et pas y croire. Savez-vous ça? Il y a des gens qui vont lire la même parole que nous et puis ils vont lire la même promesse de Dieu et puis ils vont dire « Oui, je crois en Jésus, mais ce texte-là, je crois pas ça. » Parce que ma tradition enseigne une autre chose. Mais vous savez que la tradition des hommes annule la parole de Dieu. La tradition qui est là, qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, va complètement annuler ce que vous faites croire ou recevoir de Dieu. Alors, c'est ça le message de la parole de la foi. C'est simplement le message qu'on croit ce que Dieu dit. C'est simple, finalement. Et c'est quoi que Dieu dit? Bien, Dieu dit plein de choses. Alors, Dieu nous dit qu'il veut qu'on soit guéri. Dieu dit veut qu'on soit dans l'abondance à tous les niveaux dans notre vie. Dieu veut qu'on soit heureux, qu'on ait des foyers heureux. Dieu veut que nos enfants servent le Seigneur. Il y a tellement de promesses. Dieu veut nous protéger. Amen. Il y a toutes ces choses-là. Mais la tradition arrive pour dire « oui, mais ». La théologie « oui, mais ». OK, ça, c'est comme « oui, ça le dit, mais il y a tellement de raisons pourquoi tu ne devrais pas y croire ». Ça, ce n'est pas le message de la foi. Ça, c'est le message du doute. Et ce matin, on ne va pas se concentrer sur le message du doute, parce que si vous voulez l'entendre, vous pouvez ouvrir la radio. Vous allez l'entendre, des messages de doute. Même, il y avait un prédicateur, j'écoutais à la radio, et puis il disait, la vie chrétienne, c'est comme ceci. Il a dit, c'est prout, 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 prout. J'écoutais ça à la radio. Ça voulait dire, ces petits chars, ça ne va pas loin. C'est prout, prout, prout. Et il prêchait ça à la radio. Moi, j'étais, wow, quelle théologie. Moi, c'est pas comme ça. Moi, ça va de gloire en gloire. C'est ça le message de Dieu qu'on retrouve dans sa parole. Vous savez, ça prend pas beaucoup de foi croire que la vie chrétienne, c'est prout, prout, prout. Hein? On n'a besoin de rien faire. Oui, on pourrait dire amen. On n'a plus même besoin d'aller à l'église parce qu'on peut vivre le prout, prout, prout chez nous. Amen. Mais Dieu veut qu'on grandisse. Donc, amen. Donc, le message de la foi que nous prêchons, c'est la foi en Jésus-Christ. Et vous voyez, ça dit, c'est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est dans ta bouche, le message, c'est dans ta bouche et dans ton cœur. Pourquoi? Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Si on remplit notre cœur de la parole de Dieu, ça va sortir de notre bouche. C'est pour ça, si on passe un peu de temps avec des croyants de d'autres églises, par exemple, on jase avec des gens, et puis après 5-10 minutes, on peut déjà savoir qu'est-ce qu'ils croient ou qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur, parce que leur bouche va le révéler. On va jaser avec quelqu'un qui est malade, et puis tout d'un coup, ils vont dire, « Ah, mais je suis en train de souffrir pour Jésus. Je suis en train de souffrir pour Jésus. » Comme si Jésus n'avait pas assez payé pour nous à la croix, il faut souffrir encore plus. Quelle insulte! hein, à Jésus. Quelle insulte! Jésus a payé le grand prix à la croix et nous, on arrive et on dit, tu n'as pas bien fait ton travail. Finalement, moi, je dois compléter ton travail en souffrant un petit peu. Hein? On peut parler avec les gens, entendre toutes sortes de choses. Ou même, je sais qu'il y a des gens qui ont vécu une division d'église parce que quelqu'un dans l'église avait été béni financièrement. Et puis, il y avait des gens qui ont dit, ça, c'est pas biblique, c'est pas de Dieu. Alors, ça a causé une division dans le corps de Christ. Voyez-vous, ça, c'était des gens qui n'avaient pas été renouvelés par la parole de Dieu. Mais ce matin, ce qu'on veut faire, c'est être renouvelé. Et c'est la parole qui était dans mon cœur pour vous cette semaine, c'était le mot métamorphose, qui dit que Dieu ne veut pas qu'on soit des chrétiens comme on a toujours été, mais Dieu veut nous transformer. Dieu veut complètement chavirer nos vies pour qu'on soit des nouvelles personnes, des personnes différentes, des personnes animées de son esprit et qui ont la révélation de la parole de Dieu. C'est ça que Dieu veut pour nous. Si on fait une église pour en rajouter une dans la ville de Granby, bien, on passe à côté. Mais si on se réunit ensemble pour vivre cette métamorphose ensemble, pour être changé, transformé, bien là, on va donner un flambeau visible dans cette ville et les gens vont être attirés à Dieu à cause qu'on a vécu de quoi avec Dieu et parce qu'on a été changé. Vous savez, quand Mathilde a été sauvée, il y a des gens qu'elle avait déjà été amie avec avant d'être sauvée et puis ils ont dit, il y a une sœur, entre autres, a dit, qui était juste une amie avant, elle dit, toi là, elle dit, parce que j'ai tellement vu le changement dans ta vie, elle dit, ça me prouve que la Bible est vraie. Ça me prouve que ton message est vrai, parce que tu as tellement changé. Mais ça, c'est une métamorphose. Elle a vécu de quoi? Ça l'a fait un changement. Des gens qui viennent au Seigneur, mais leur vie ne change pas, bien, ils n'ont rien vécu. Moi, je m'excuse, je ne crois pas là-dedans. Un salut avec pas de changement. Un salut, il va y avoir un changement. On va vivre de quoi? Amen. Et là, dans Romains 12:2, ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, comment? Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu pour vous, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qui est mauvais? C'est pas la volonté de Dieu pour vous. C'est simple, discerner. Dieu veut qu'on arrive à discerner ces choses-là et on doit être transformé comme par le renouvellement de l'intelligence. Et le mot transformé dans le grec, c'est le mot métamorphose qui nous dit qu'on est totalement changé. On devient une nouvelle personne. Amen. Et comment est-ce qu'on va y arriver? Comment est-ce qu'on va arriver à cette place où on va vraiment être changé? Mais ce qu'on doit faire, Jacques 4:8, ça dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » OK, je le relis. Jacques 4:8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous voulez vivre des choses avec Dieu, vous voulez transformer, vous avez soif pour plus de Dieu dans votre vie, bien, attendez pas que Dieu fasse de quoi dans vos vies, à moins que vous êtes prêt à prendre le premier pas. Le premier pas, c'est simplement dire, oui, Seigneur, me voici. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Il ne dit pas, approchez-vous de Dieu, et il va se mettre à s'enfuir loin de vous et il va jouer à la tag, à essayer de me rejoindre si vous pouvez. Non, approchez-vous de lui, il va s'approcher de vous. Ça, c'est merveilleux. Donc, on peut avoir ce contact divin avec Dieu. Et quand on est touché par Dieu, on ne sera plus jamais pareil. Là, on va être transformé. On va être transformé par sa présence. Juste une des choses, entrer dans sa présence, c'est là où on est transformé. Amen. Comment la métamorphose? C'est par la présence de Dieu et certainement par la parole de Dieu. Dans Romains 10:17, ça dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et dans Proverbes 4:20-22, j'aimerais ça qu'on lise ensemble. Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22. Ce matin, ce que j'ai à cœur de partager avec vous, c'est oui, on peut changer, être dans cet état métamorphose où on est totalement transformé. Mais on a une responsabilité dans tout ça. Même si Dieu veut faire des grandes choses pour nous, la responsabilité demeure à nous, en tant qu'enfants de Dieu. Comment est-ce qu'on va s'approcher de Dieu? Est-ce qu'on va rester assis sur notre lazy boy spirituel et s'attendre que Dieu va tout faire pour nous? Ou est-ce qu'on va se lever de notre lazy boy et on va dire, « Oui, je veux m'approcher de toi d'une façon tangible et d'une façon pratique. » Parce que toutes les promesses de Dieu sont « Oui et Amen », mais il faut faire de quoi pour les recevoir? Amen. Comme la femme qui avait la perte de sang, elle n'a pas dit, « Bien, si Dieu le veut, il viendra chez nous et me guérir. » Et elle s'est levée, est allée vers lui, puis elle a dit, « Si je touche le bord de son vêtement, je vais être guérie. » Et puis, elle a été guérie à l'instant même. On connaît ça, mais elle a été obligée de prendre un pas par la foi. Et nous, le pas qu'on prend par la foi, c'est premièrement par la parole de Dieu. En lisant, okay, en faisant une lecture de la parole de Dieu, et en l'écoutant, comme on a lu. Dans Proverbes 4, 20 et 22, ça dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. » Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Okay? Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Mais il faut prêter l'oreille à ces discours. Ça veut dire que pendant la semaine, pendant que vous êtes chez vous, si vous voulez vivre le changement, la métamorphose que Dieu nous donne comme possibilité, qu'est-ce qu'on doit faire à la maison? On doit être exposé à la parole de Dieu. On doit entendre les messages de la parole de Dieu constamment. Savez-vous pourquoi? Parce que le diable travaille 24 heures sur 24 pour vous détruire. Le diable ne prend jamais de congé. Son désir pour vous, c'est de venir vous voler, vous égorger, vous détruire. Mais Jésus est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Alors, ce qu'on doit faire, c'est se remplir de la parole de Dieu constamment, parce que le diable, lui, il travaille constamment à travailler contre vous. Comprenez-vous? Il y en a un qui travaille contre vous, alors vous devez travailler pour vous en vous exposant. Puis le plus qu'on entend la parole de Dieu, le plus que Dieu change nos vies, parce que là, la foi est suscitée en dans nous, et là, on peut commencer à croire les promesses de Dieu. Mais si vous l'entendez une fois par semaine, comment allez-vous recevoir toute la provision de Dieu? Ça va vous prendre la foi vraiment forte pour recevoir ces choses-là. Mais peut-être que vous avez dit, « Ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai, Dieu guérit. Ouais, je sais. Je sais que Dieu peut me délivrer des dettes. Je sais. Mais ce n'est pas assez ancré quand on fait juste le savoir dans notre tête. Mais c'est quand il y a eu un dépôt de la parole de Dieu sur une base continuelle et là, quelqu'un vous dit, peut-être Dieu veut que tu sois malade. Peut-être que c'est la volonté de Dieu que tu souffres de telle chose. Il est en train de t'enseigner des choses. Là. Mais là, si la parole de Dieu était ancrée dans ton cœur, bien là, tout de suite, ça sort. Ben non! À cause de, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Toutes les promesses de Dieu, comme le psaume 103, qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies, tout d'un coup, ça sort de votre cœur parce que vous avez le dépôt là. Mais ça n'arrive pas d'un coup. C'est un processus continuel. Le plus qu'on se remplit, le plus qui peut sortir, qui peut déborder. Amen. Mais le prix ici, c'est sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Il faut les entendre, il faut les écouter. Et ça prend du temps. Voilà, c'est ça le piège. Hein, y en a qui vont dire, c'est quoi le catch? Hein? What's the catch? Hein? C'est quoi le... Ça prend du temps. Ça va vous coûter du temps. Ça veut dire que vous allez écouter moins de télévision. Vous allez écouter moins la radio et vous allez mettre des CD d'enseignement pour remplacer ces choses-là ou des DVD d'enseignement pour vous bâtir dans votre foi. C'est juste une question de choix, ça. Il y en a qui disent, ah, mais moi, j'aimerais ça être comme une telle personne. J'aimerais ça vivre des expériences comme eux. Mais êtes-vous prêt à passer par le même chemin qu'ils ont pris? Êtes-vous prêt à investir le même temps qu'ils ont pris pour arriver à ce point-là? Il y en a qui verraient le frère Reinhard Bonnke avec des millions de personnes. Et je me souviens, j'avais entendu son témoignage qui disait qu'un jour, quelqu'un avait prophétisé sur sa vie. Un jour, là, il va avoir, je pense, 1 million devant toi. Et c'est impossible. Il ne croyait même pas à l'époque quand les gens ont prophétisé ça sur lui. Mais ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé dans sa vie. Mais il a été obligé de se mettre en position pour que ça l'arrive. Pareillement, c'est ça qu'on est en train de dire ici. Donc, il faut prendre la peine, le temps pour écouter la parole de Dieu. Et il faut faire la lecture et la méditation de la parole. Pas une simple lecture et dire, OK, j'ai lu mes deux chapitres aujourd'hui, mais prendre le temps de méditer. Dans Josué 1:8, ça dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Voyez-vous encore une fois, ça revient, la bouche. On parle beaucoup ici dans la parole de la bouche. Pourquoi? Parce que quand on entend notre bouche dire des choses, on commence à y croire. Hein? Quand on commence à dire « Je suis béni », on est béni. Vous savez, comme mes petites filles, là, je vais vous raconter une anecdote. Mes deux petites filles, ils priaient pour aller à Walt Disney. Bien, nous, savez-vous, on a toujours dit à nos enfants qu'on est riches. On est très riches même. Mes enfants, ils savent qu'on est riches. Et là, hier, je parlais de ça, j'ai dit « On est riches pas parce qu'on a de l'argent. C'est pas ça la vraie richesse. La richesse, c'est de connaître Jésus-Christ. » Ça, j'ai dit à Florami et à Félicité, j'ai dit, être riche, c'est de connaître Jésus. Parce que quand on connaît Jésus, lui, il a toutes les choses possibles. Et quand on a besoin, il nous donne ce qu'on a besoin. J'ai dit, c'est ça, être riche. C'est pas d'avoir de l'argent. Parce que j'ai dit, on peut avoir 0 cent et être riche aussi. On dit, ah oui? J'ai dit, absolument, être riche, c'est de connaître Jésus. Et c'est merveilleux. Mais eux, ils savaient là, que Jésus était la source pour toutes choses. Alors, quand ils voulaient aller à Walt Disney, j'ai dit, ben, en ce moment, là, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de prier pour que Jésus nous donne l'argent pour y aller. Ça fait qu'ils ont dit, OK, on va prier. Et puis, ça fait des semaines ou même des mois qu'ils prient pour aller à Walt Disney. Et puis, finalement, là, on a pu leur dire, on y va à Walt Disney. Et là, Félicité a dit, on a beaucoup d'argent, nous. Elle dit, on est très riches. Parce qu'elle dit, pour aller à Walt Disney, ça prend beaucoup d'argent. J'ai trouvé ça cute. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit toujours, là? C'est qu'on est bénis. C'est ce qu'on dit dans notre maison, on est béni. Et puis des fois, si ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas dit, il faut recommencer à le dire et se rappeler. Parce que si vous le dites, moi je suis béni, vous allez finir par y croire. Et si vous finissez par y croire, vous pouvez le recevoir. Mais si vous parlez toujours votre réalité humaine, oh, il y a ci comme problème, il y a X, Y, Z problème, mais là, vous vous entretenez juste avec les problèmes. Mais Dieu vous demande de lever les yeux vers les cieux et vers ses promesses et commencer à croire qu'est-ce qu'il dit. Puis là, on dit, hey, je suis béni. Je ne sais pas comment telle chose va arriver, mais je sais que toute chose concourt à mon bien parce que je suis un enfant de Dieu. Je sais que Dieu va transformer ces choses-là, puis ça va concourir à mon bien. Je suis béni. Amen. Mais médite-le jour et nuit. Ça veut dire que c'est continuel, là. Ça ne veut pas dire qu'on ne dort pas la nuit, mais ça veut dire qu'on prend beaucoup de temps à se remplir constamment. Et ça ne sort pas de notre bouche, OK? Ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il y a des gens qui disent, Dieu, là, c'est pas important pour lui la réussite. C'est charnel, la réussite. Écoutez, il vient de dire, c'est alors que tu auras du succès et tu vas réussir. Si c'était charnel de réussir, ça ne sera pas dans la parole de Dieu. Dieu veut qu'on soit un succès dans qu'est-ce qu'il nous appelle à faire. Le succès, ce n'est pas qu'est-ce que le monde dise. Le monde peut dire, avoir le succès, c'est telle chose. Mais le succès, telle chose. Mais le succès dans nos vies, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Si Dieu vous appelle de faire une chose et vous le faites, vous êtes un succès aux yeux de Dieu. Vous allez avoir la même récompense que Billy Graham au ciel. Billy Graham a été appelé à faire une telle chose. Si Dieu vous a appelé à faire l'école du dimanche et vous le faites, vous allez avoir la même récompense en autant que vous marchez dans l'obéissance. C'est ça qui compte. Amen. Comment est-ce qu'on va y arriver, par exemple, en église? Comment est-ce qu'on va y arriver à se remplir de la parole de Dieu? Oui, vous avez des devoirs, là. Je vous donne des devoirs. Vous, cette semaine, écoutez au moins une prédication chez vous, une de plus. Pas juste le dimanche, mais trouvez un temps chez vous cette semaine pour écouter une prédication. Commencez une prédication par semaine, c'est difficile. Et si ce n'est pas trop difficile, rajoutez-en une par jour. Et après, vous pouvez faire comme moi. Moi, quand je me couche le soir, je mets mes écouteurs et je m'endors en écoutant des prédications. Par des personnes qui ne crient pas trop, par exemple. OK? Mais vous pouvez faire comme ça, vous remplir de la parole de Dieu. Mais en groupe, en église, moi, je crois au principe de l'encouragement. Moi, je crois là-dedans. Vous savez, il y a des gens qui veulent maigrir, ils vont à un groupe qui s'appelle Mince à vie. Connaissez-vous ça, Mince à vie? Vous payez un certain montant juste pour aller vous faire peser. Là, on se dirait, bien, au début, il y a tout le training qui vient avec. Mais il y a des gens qui retournent là chaque semaine puis ils ne font pas plus pour eux. Ils vont simplement les peser. Et là, ils vont payer 5 $ je pense. Dans le temps, c'était 5 $ pour aller se faire peser. Mais pourquoi? Mais c'est question de l'entraînement puis être redevable à quelqu'un. Puis finalement, il y a quelqu'un qui dit, « Ah, madame, vous avez engraissé 2 livres cette semaine. » Ou « Vous n'avez maigri 2. » Ou des fois. Mais juste le fait d'être redevable à un groupe, ça nous aide à avoir le succès. Et moi, qu'est-ce qui est venu à mon cœur cette semaine, c'était de vous encourager à faire partie d'un groupe, un nouveau groupe, une nouvelle clique, une élite dans l'Église. OK? C'est une joke. Mais c'est des gens qui vont avoir tellement soif de Dieu qu'ils vont vouloir mémoriser la parole de Dieu. Wow! La mémorisation! Oh, on n'est plus à l'école du dimanche. OK, il y a des choses qu'on peut faire. C'est dans Psaume 119, verset 11, ça dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Si on veut avoir de la force, si on veut être transformé, tout ça, on a besoin de serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Le Psaume 119, verset 11, on peut mémoriser un verset par semaine en église. Est-ce que ça serait possible? Vous voyez, moi, je pense que Dieu veut faire de quoi de grand parmi nous. Il veut que cette assemblée fasse quelque chose d'important dans la ville. Et comme la sœur nous a dit tantôt, vous allez utiliser de la part de Dieu pour enseigner la parole aux autres. Mais comment pourrez-vous enseigner ce que vous ne connaissez pas? Alors, ce qu'on a besoin de faire, c'est prendre un verset. Je ne vous dis pas de mémoriser le chapitre, le psaume 119 au complet, OK, pour la semaine prochaine, mais de prendre un verset ensemble, en groupe. On va tous prendre un verset et puis on va le mémoriser ensemble. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait nous donner du succès dans nos vies? Moi, je crois que oui. Vous savez, on a pris les 40 heures de prière qu'on a faites ensemble. Et quand on fait ça dans une collectivité, on est plus encouragé. Est-ce que c'est vrai? Quand on fait des choses en groupe, on est encouragé. Tout le monde fait le 40 heures ensemble, puis on réussit. Mais pareillement, là, la parole, c'est le tour, pas juste de la prière, mais aussi d'intégrer ça au niveau de la parole de Dieu. Qu'on va prendre un verset par semaine et on va méditer sur ce verset-là. On va laisser le verset nous transformer par l'Esprit de Dieu et on va pouvoir même se citer. Il n'y aura pas de test, il n'y aura pas de place où on va venir vous écouter et voir si vous l'avez bien fait. Ça va être entre vous et Dieu, mais aussi avec les frères et les sœurs, si vous voulez le partager ensemble. Et il va y avoir également la lecture. Okay? Vous savez, la lecture de la parole, il y en a des gens qui ne savent pas encore bien lire la parole. Et quand je vous dis ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, Seigneur, montre-moi ce que tu veux me parler aujourd'hui. Ils vont ouvrir la parole et puis ils vont mettre leur doigt dessus et c'est écrit, Judas alla se pendre. Ah, Judas alla se pendre. Ils vont tourner dans notre place. Allez faire de même. Et puis là, vous voyez comment on peut être guidé. Vous voyez, on peut être guidé comme ça, conduit par toutes sortes d'idées et de ne pas avoir une stratégie. Mais moi, je crois que Dieu veut qu'on fasse la lecture de la parole de Dieu. Oui, OK, ça, on peut aller n'importe quelle place, comme vous vous sentez guidé. Mais j'ai aussi un projet à vous proposer, c'est qu'on arrive à connaître tout le Nouveau Testament ensemble. Que tout le monde ici va connaître leur Nouveau Testament facilement. Ça va être facile pour tout le monde. OK, et je vais vous donner une technique. Ce matin, je vous donne un petit peu de pratique aussi. Là. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce que je vais vous proposer, OK, c'est qu'on va passer un mois dans un épître ou dans un livre. OK? Et ce qu'on peut faire, je vais aller tout de suite à l'épître ici. On va commencer avec le premier Jean. Et on va passer tout le mois de mai dedans. Là, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais je vous propose ce projet-là en Église. OK? Vous voyez, il y a le premier épître de Jean, il y a 5 chapitres dedans. Dans ma Bible, je vais vous compter, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages dans 1 Jean. Là, si on passe un mois à lire 1 Jean, OK? Qu'est-ce qui va se passer? Bien, on va finir par le comprendre, OK? De 1. Au lieu de se promener partout dans la Bible et là, pas vraiment connaître le contexte d'une telle chose, là, on va passer un mois à lire ce livre-là. Mais si on veut vraiment le connaître et arriver à le connaître par cœur, savez-vous qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le lire à chaque jour. Pendant 30 jours, on lit 1 Jean, les 5 chapitres, une fois par jour. Ça peut vous prendre une demi-heure, peut-être, lire ça. Peut-être une heure, dépendamment comment vous lisez. OK? Mais ça prend du temps, encore une fois. Et savez-vous, quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après un mois, vous allez dire, « Ah, ben là, je pense que je comprends. » Et c'est vraiment une réalité. Quand on passe du temps, moi, c'est le premier livre que j'ai fait. À cette heure-là, quand on cherche une place dans la parole, bien là, vu que j'ai passé tellement de temps à lire toujours la même chose, là, c'est rendu, je connais. Je connais aussi que c'est rendu telle affaire. Mais en groupe, on peut le faire aussi. Si vous dites, « Ouais, mais Joël, moi, je me sens guidé d'aller lire dans les Proverbes. » Bien, il n'y a rien qui vous empêche d'aller lire dans les Proverbes aussi. Il n'y a rien qui vous empêche d'étudier l'Apocalypse ou comme vous vous sentez guidé. Mais pourquoi pas faire ça comme un projet d'Église? Qu'on arrive, là, tout le Nouveau Testament, vous allez savoir où se trouve quoi. Quel verset se trouve où? C'est possible. Vous allez dire, oui, mais Joël, le Nouveau Testament, c'est quand même épais. Ça va prendre bien du temps. Oui, ça va prendre bien du temps avant de le faire. Mais savez-vous, on va lire la parole de Dieu jusqu'à temps qu'on meure. Alors, on a beaucoup de temps devant nous. Hein? Pourquoi pas lire la Bible pour la connaître, pour une fois? Il y a des gens qui vont lire leur Bible, ça fait des années qu'ils vont lire la Bible, mais on va leur dire, « OK, est-ce que tu pourrais m'expliquer une telle affaire? » Ben, je sais qu'il y a un concept à quelque part dans la parole, mais je ne sais pas c'est où. Mais pourquoi pas arriver à une place où, « OK, oui, je me souviens, c'est dans Matthieu. C'était telle place. » Peut-être que vous n'allez pas vous rappeler du verset exactement, mais vous allez vous rappeler qu'il y a une tache de ketchup sur cette page-là. Parce que vous l'avez lu tellement souvent et vous avez mangé votre hamburger en même temps. Ça se peut. Savez-vous une chose de la parole de Dieu? C'est que toutes les pages... On va prendre une page qui est en noir et blanc, là. En tout cas, mais on va prendre une autre Bible. Toutes les pages de la parole de Dieu, savez-vous qu'une chose? Ils se ressemblent toutes. Ils sont toutes sur des pages blanches et il y a toutes des lettres noires dessus. Voyez-vous? Bon. Là, vous allez dire, où c'est que j'ai bien lu ça, ce verset-là que je cherche? Vous faites le tour de la Bible. Toutes les pages sont pareilles. Mais qu'est-ce qu'on fait, là? Vous pouvez même écrire dans votre Bible. Quelle révélation! Il y en a qui disent, c'est trop saint, il ne faut pas faire ça. C'est trop saint, hein? Bien là, je vais vous montrer, moi, qu'est-ce que je fais. OK? Rendre toute pensée captive. Savez-vous qu'est-ce que moi je fais? Je barbouille partout dans ma Bible. Si je veux me retrouver, je mets du jaune, toutes sortes de couleurs, OK? Rendre toutes les pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Savez-vous, moi, que j'ai fait? J'allais faire une petite tête ici dans ma Bible avec un petit cerveau, comme vous pouvez voir, OK? Avec une petite croix. Et il y a un monsieur ici. Toutes ses pensées sont captives à l'obéissance de Christ. On se fait des signes de main parce que toutes les pages sont pareilles dans la parole. Elles sont toutes pareilles. Alors moi, j'ai rendu différentes. Et là, je peux me retrouver. Ah, ça, c'est un chapitre sur les finances. Un petit numéro de pièce. Ah, on va regarder voir un autre verset. Je vais vous montrer de quoi. Qu'on parle de l'Antichrist. L'Antichrist, à quoi il ressemble, lui? OK. Regardez. Marc de la bête. Voyez-vous le petit bar scan? Marc de la bête. Hein, je peux me retrouver dans ma Bible. Mais votre Bible, ça vous appartient. Mais des fois, on dit c'est tellement sain, on va la laisser sur la tablette. Et puis, on va laisser la poussière divine tomber dessus. Mais ça ne change pas grand-chose dans nos vies. C'est vrai, ça ne change rien. Mais si on décide, hey, nous, là, on va être une église de la parole de Dieu. Nous autres, on va la connaître, notre parole. On va y croire, puis on va la mettre en pratique. Et on va vivre les promesses de la parole de Dieu. Wow! Ça va être rafraîchissant comme assemblée. Savez-vous pourquoi ça va être rafraîchissant? Parce que les gens qui écoutent la parole de Dieu, qui sont transformés par la parole de Dieu, c'est des gens contents. C'est des gens, quand on les rencontre sur la rue, puis comment ça va, ils vont pas vous dire « ça va bien par la grâce de Dieu ». Connaissez-vous des gens qui disent « ça va bien par la grâce de Dieu ». Non, ça va être « hey, ça va bien, hey, j'étais malade, mais Dieu m'a guéri, hey, c'est capotant de ce que Dieu est en train de faire ». Ça, c'est qu'est-ce qu'on veut. On ne veut pas une église religieuse, on veut une église déjà touchée par Dieu, transformée par Dieu. Amen. Amen. Donc, ça, c'est un projet. Moi, je vous propose pour tout le mois de mai, OK, on va lire 1 Jean, les 5 chapitres. Si vous dites, bien, Joël, c'est trop pour moi de lire 5 chapitres dans un jour, bien, faites-les 2 mois d'abord, OK? Lisez la moitié, lisez 2 chapitres par jour et après, peut-être le prochain mois, 3 chapitres, si c'est vraiment impossible pour vous. Mais si c'est possible et vous pouvez le faire en même temps que toute l'Église, lisez au moins une fois par jour, tout 1 Jean, et après 2 ans, ça prend 2 ans à faire le Nouveau Testament. Après 2 ans, vous allez connaître toute la Bible comme ça. Tout le Nouveau Testament. Vous allez le connaître comme partout dans le Nouveau Testament, c'est ça, après 2 ans. Excusez, je me répète, là, mais c'est ça. Donc, si vous ne savez pas, après 2 ans, vous allez connaître toute la Bible. 3e fois, 4e fois, tout le monde. Non, mais c'est ça, ça vaut la peine. Je pense qu'on va vivre de quoi spécial avec Dieu par la parole. Ah, puis c'est ça que je voulais dire. C'est que vous avez dit, oui, mais Matthieu, il y a beaucoup plus de chapitres, mais on continue à diviser les 5 chapitres toujours. C'est toujours par 5, pour pas que ça soit trop long. OK? Donc ça, c'est un projet d'église que je vous propose. Ça va commencer au mois de mai. OK, donc on veut être dans ce message de foi qui nous transforme. La prochaine chose qu'on doit faire, par exemple, c'est d'être vigilant, non seulement à dire « oui, je vais passer du temps dans la parole, dans la prière, tout ça », mais ensuite, je dois persévérer dans les principes de Dieu. Je dois persévérer. Il y a des gens qui vont dire « oui, je crois, je reçois, alléluia », mais là, il y a des vents contraires et tout d'un coup, ils disent « ah, ben ça fait longtemps que j'attends pour une réponse, je ne l'ai pas vécu encore, ça ne marche pas ». Avez-vous déjà rencontré des gens qui disent « ça ne marche pas, ces affaires-là ». Bien, savez-vous, la parole de Dieu, ça marche toujours. Ça marche toujours. Quand ça ne marche pas, devinez, est-ce que c'est Dieu qui s'est trompé ou est-ce que c'est nous? Entre Dieu et nous, s'il y a un défaut, là, ça ne tombe jamais sur le dos de Dieu. Ça fait que s'il y a un problème et ça ne marche pas, c'est pas que Dieu ne savait pas comment faire ou qu'il s'est trompé. C'est peut-être nous qui nous manquait de connaissances. Et des fois, on dit, oui, mais j'ai tout fait, qu'est-ce que je connaissais? Bien, peut-être tu n'en connais pas assez encore. C'est tout. On a besoin de connaître plus les choses de Dieu. Amen. Donc, il faut persévérer. Ça, c'est la prochaine chose. Ça, on va prendre le temps d'être dans la parole de Dieu. Ensuite, il faut persévérer dans notre foi. La parole de foi, c'est qu'est-ce qui est dans notre cœur, mais c'est aussi une marche de persévérance. Les gens qui disent, ça ne marche pas, le message de la foi en Jésus-Christ, bien, c'est parce qu'ils se sont découragés, ils n'ont pas persévéré. Et souvent, la raison pour les gens, ils ne persévèrent pas, c'est parce qu'il y a un mythe. Un mythe de cette métamorphose micro-onde. Connaissez-vous ça? C'est que dans un seul instant, tout change dans notre vie. Et c'est vrai et c'est pas vrai. Écoutez bien. Dans 2 Corinthiens 5, 17, ça dit que si quelqu'un est en Christ, Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans notre position en Christ, c'est vrai. Tout est nouveau. Okay? Toutes choses sont nouvelles dans nos vies spirituellement. Tout ce qui nous appartient comme héritage, c'est vrai, ça nous appartient. C'est automatique. Okay? Dans notre position. Dans notre condition, par exemple, humaine, est-ce que ça se peut qu'on doit changer notre façon de penser pour y arriver? Oui. Et c'est ça l'affaire. Comme on a lu tantôt, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Ça, le « soyez transformés », c'est un verbe. C'est quelque chose qui se passe. On doit être transformé de jour en jour. Donc, oui, positionnellement, tout est neuf en Dieu, mais aussi on doit changer notre façon de penser par le renouvellement de l'intelligence, qu'est-ce qu'on pense, pour par la suite commencer à recevoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Donc, c'est pour ça des fois les gens se découragent, ils se disent « ça n'a pas marché ou ça ne marche pas », parce qu'ils se découragent, parce qu'ils pensent que toutes les promesses de Dieu étaient pour se produire du jour au lendemain. Par exemple, quelqu'un va semer de l'argent dans un ministère, OK? Il y a quelqu'un qui vous dit « semez dans mon ministère, vous allez être béni au retour ». OK? Vous allez recevoir au centuple. Vous dites, hey, je crois vraiment dans ce ministère, je crois dans l'appel de Dieu sur eux, tout ça. Je fais une semence. Et puis, le lendemain matin, vous allez voir dans votre compte de banque et vous n'avez pas reçu au centuple. Ah, ben, ça n'a pas marché, cette affaire-là. Ou j'ai commencé à confesser la guérison et ça fait une semaine là, que je confesse, je n'ai rien reçu. Et puis là, on commence à déterrer notre semence. On a semé de quoi dans le monde spirituel? Et vu qu'on n'a pas vu la réponse ou la récolte du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe? On commence à dire « ça ne marche pas ». Et là, on est en train de déterrer notre semence par notre bouche. « Ça ne marche pas, ça ne marche pas ». Et autant et aussi longtemps qu'on dit que ça ne marche pas, devinez, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Il y a des gens qui disent « moi, je ne crois pas dans la confession de la parole de Dieu parce que ça ne marche pas ». Et je vais vous dire « c'est vrai ». Ça ne marche pas parce que vous le dites. Ça ne marchera jamais pour vous parce que vous n'y croyez pas et vous ne le faites pas. Mais si vous dites « ça marche », devenez « ça marche ». Dans ma vie, je l'ai mis en pratique. Je me souviens, il y a bien des années, avec mon épouse, même avant d'être mariée, j'étais dans une église qui ne croyait pas dans les choses que je croyais, mais je mettais quand même en pratique. Moi, je disais « mon Dieu, c'est un grand Dieu. Moi, je suis béni. » Puis le monde riait de moi. Il trouvait ça, « es-tu comique, lui? Il pense qu'il est béni. » Mais partout où j'allais, moi, je disais « moi, je suis béni. La prospérité me court après. Même, je m'en vais à Maison Chinoise. Il va y avoir un stationnement qui va m'attendre juste pour moi quand je vais arriver là. » Justement, j'arrive là, on était un groupe d'église, j'arrive, tout le stationnement est plein, mais quand Joel Spinks arrive, quelqu'un sort de son stationnement, et moi, je vais me stationner. Et là, le monde, il riait, il disait, « Ah, toi, c'est la prospérité, hein, je sais. » Je dis, « Ben oui, c'est ça pour moi. » Mais faut le dire, il faut continuer à dire ces choses-là et y croire, amen. Mais quand ça n'arrive pas du jour au lendemain, faut pas se décourager, faut pas aller mettre une semence dans la terre et par après aller la déterrer. Agrandis-tu cette semence-là? Si vous faites ça, vous déterrez toujours votre semence, elle ne grandira pas. Il faut la laisser là, la laisser agir, prendre le temps de prendre des racines, et là, vous allez voir une récolte. Amen? Donc, il faut avoir cette patience-là. Et dans Ésaïe 28, 9 à 10, ça dit ici, concernant la fondation qu'on doit avoir dans nos vies. À qui veut-on enseigner la sagesse? Okay, Dieu nous pose la question ici, à qui veut-on enseigner la sagesse? Est-ce que Dieu va vous donner sa sagesse? Oui, Dieu veut vous donner toute la parole de Dieu, Dieu vous donner sa sagesse, c'est sûr. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Verset 10, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Donc, Dieu bâtit toujours sa fondation. Et je veux vous laisser savoir que quand Dieu est en train de travailler dans votre vie, OK, et Dieu est en train d'établir la fondation pour votre foi, pour recevoir tout l'héritage, bien, des fois, ce n'est pas excitant. Par exemple, Jean, il a construit sa maison, une partie de sa maison. Hein, il y a une deuxième partie qui est à côté de chez eux. Il a tout fait une fondation. Et Jean, quand tu as fait ta fondation, si tu n'es pas super capotant, tu n'es pas venu chez nous pour dire « Hey Joël, viens voir, j'ai tout enlevé le gazon, là, puis là, je suis en train de mettre la fondation, là. Oh! » Hein? C'était pas comme ça. À la fondation, « Wow, regarde ça, là, la terre est toute bien établie, là. Hey, j'ai enlevé les grosses roches. Hey, c'est super! » Le monde ne sont pas comme ça, parce que c'est juste la fondation. On se dit, Ouais, c'est une fondation. Mais aujourd'hui, la maison, vous devriez la voir. À cause de la fondation, là, il peut avoir une belle maison. Ça, c'est plus excitant quand on voit le fruit. Mais quand, si on n'avait pas la fondation, il n'y en aurait pas de fruit. Et on pourrait se décourager et dire à Jean, bon, pas de faire ça. On ne la verra même pas, cette fondation-là. On ne la verra pas, il va y avoir une belle maison dessus. Mais si Jean avait juste construit sa maison puis il n'y avait pas la fondation, elle serait super belle, mais là, il y aurait une tempête qui viendrait et puis il y aurait de l'eau, tout ça. Et là, la maison briserait, elle se démolirait. Elle ne serait pas fondée sur le roc. On doit être fondé sur le roc, nous. Et c'est pour ça, des fois, on est dans des saisons d'attente. Et ça a l'air comme si Dieu ne fait rien pour nous. On dit, coudonc, Dieu, tu fais-tu de quoi? Oui, je suis en train de bâtir la fondation. C'est ta fondation. C'est super important. Si tu te décourages, tu te dis, c'est trop long. Savez-vous qu'est-ce que ça fait? Bon, ça, c'est de l'immaturité. On dit, c'est trop long. J'abandonne toutes ces choses-là. Moi, je ne veux pas continuer dans la foi. Ça, c'est de l'immaturité. On est immature. Et qu'est-ce que ça fait? On est impatient. Par la suite, ça fait le sabotage du plan de Dieu dans nos vies. Ça sabote le plan de Dieu. Donc, ça nous donne un détour dans notre destinée. Ça ralentit, ça nous retarde dans notre destinée. L'immaturité comme ça. Et là, si ça vous touche ce matin, vous dites, oh, c'est vrai dans ma vie, ça. Vous pouvez, de un, être frustré avec moi, OK? Un. Ou deux, dire, ouais, c'est vrai, j'étais comme ça, j'ai mieux d'arrêter. A ou B. Mais B, c'est toujours mieux. Parce que même si vous êtes frustré avec moi, ça ne va rien changer. Vous pouvez quitter offensé. Hey, il me dit là, que j'étais impatient, immature. Je ne sais pas si c'est Dieu qui vous le dit. Si le chapeau vous fait, comme on dit, mettez-le. Mais si vous ne faites pas, ben, mettez-le pas. Mais laissez Dieu vous travailler et dire, hey, c'est vrai, j'ai manqué de maturité à ce niveau-là. Faut que je sois patient. Faut que je sois patient et voir Dieu agir. Et je termine avec ce texte ici. OK, dans Colossiens 1, 9 à 12. Colossiens 1, 9 à 12. Ça, c'est vraiment, vraiment bon concernant la patience. Pour nous aider à arriver à la réalisation du fruit de cette parole de foi en nous. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Écoutez bien ça, remplis de la connaissance de sa volonté. Le message de la foi, en réalité, c'est toujours de revenir à la volonté de Dieu pour vous concernant tous les sujets de votre vie. OK? C'est toujours, c'est quoi que Dieu dit? C'est ça l'affaire, connaissance de la volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle ou le discernement. Verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Donc ça nous parle du comportement, OK, des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant, OK, croissant, donc c'est l'augmentation, on est en train de grandir ici. Comment? Par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et ça, là, on pourrait prêcher pendant une heure là-dessus. Mais je veux juste le décortiquer un petit peu ici, là, à tous égards par la puissance glorieuse. Vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Dieu veut que vous soyez toujours, toujours avec joie, persévérant et patient. C'est une chose, on peut être patient et même être dans la joie. Savez-vous ça? On n'est pas obligé d'avoir une mauvaise attitude pendant qu'on attend la récolte. Moi, je me souviens qu'en 1997, j'étais en Australie et puis je lisais un livre par Joyce Meyer. Ça disait « Enjoying where you are on the way to where you're going ». C'est un livre qui est assez long comme titre, mais ça dit apprécier ou avoir du fun, là, si on veut, enjoy, c'est comment on dit ça en français? Apprécier où vous êtes sur le chemin où vous en allez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui retardent leur joie, ils se disent, je vais être heureux quand je vais être rendu là-bas. Mais jusqu'à ce temps-là, je vais être grogneux, je vais chialer. Hein? Il y a des gens comme ça qui vont être grogneux jusqu'à temps qu'ils arrivent à leur destination. Mais savez-vous, puisqu'ils sont grogneux et qu'ils chialent, ils n'arriveront jamais à leur destination. Comme le peuple d'Israël qui sont morts dans le désert, ils chialaient dans le désert, mais ils sont restés et sont morts là-bas. Mais si on change notre façon, notre perspective, on change notre discours, on commence à être heureux, persévérant, toujours dans la joie, jusqu'à temps qu'on y arrive, on va y arriver. C'est la promesse. Et qu'est-ce que, qui me fait encore plus triper? C'est au verset 12, ça dit, « Afin que vous puissiez avoir l'héritage des saints dans la lumière. » Dieu, il nous donne un héritage. On a un héritage, l'héritage des saints dans la lumière. Alors, on a l'héritage qui est là. Dieu veut nous la donner. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est commencer à y croire et mettre en pratique ce que je viens de vous dire ce matin. Amen. Ça fait que j'ai plein d'autres choses que j'avais préparées, mais le temps est court. Et je vais arrêter ça là. Mais tout ça pour vous dire ce matin, ce qu'on a, on a vu ensemble, c'est que la parole de Dieu n'est pas juste là pour recevoir la poussière. La parole de Dieu est là pour transformer nos vies. Et tout le conseil de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et si vous recevez ces promesses-là dans vos vies, c'est une question de choix. C'est une question de choix uniquement. Est-ce que je choisis de donner du temps à Dieu? Si Dieu est numéro 59 dans votre liste de priorités, vous allez passer à côté des bénédictions que Dieu en réserve pour vous. C'est juste ça. On décide le niveau de croissance qu'on a dans nos vies. Ça, je l'ai dit à Mathilde quand elle venait d'être sauvée. J'ai dit, Mathilde, si tu veux grandir un dimanche à la fois, écoute une prédication par jour. Au moins ça. Puis là, tu es en train d'augmenter le niveau de parole qui rentre dans toi. On décide, si on veut recevoir l'héritage dans 50 ans, allez-y au rythme comme ça pour y rentrer. Mais si vous voulez saisir toutes les choses aujourd'hui et vivre au maximum les bénédictions de Dieu, il faut accélérer dans cette chose-là. Vous savez, juste en terminant, j'ai dit, on a parlé récemment, Jean et Martine et mon épouse et moi, on a dit, Jean, là, il faudrait aller en Europe, faire une tournée en Europe. Hein, vous en rappelez? Mais cette semaine, j'ai rencontré un frère qui m'a dit, hey Joël, c'est un frère de la Belgique, il dit, hey Joël, faudrait que tu viennes en Belgique. J'ai dit, ben oui, j'ai dit, absolument. J'ai dit, on a planifié d'y aller en 2010. Il dit, ah, ben tu m'appelleras, il dit, je t'organiserai toute une tournée. Hein? Ça fait qu'on commence à se préparer à faire d'autres choses, à faire plein de choses, le fun pour le Seigneur. Mais ça, on dit, ah, ben là, on chiale pour X, Y, Z raison. On passe à côté des choses que Dieu veut pour nous. Mais est-ce qu'on peut ensemble dire, OK, on comment on dit, en tout cas, on met nos pieds sur le gaz et puis on va accélérer dans les choses de Dieu pour vraiment vivre le message. Hein? On ne fait pas juste prêcher un message, on veut le vivre. Amen. Amen. Alors, je vais vous inviter à pencher vos têtes. On va prier ensemble. Amen. Oh Seigneur Dieu, on veut te remercier, Seigneur, pour ta parole qui est toujours vraie. Merci, Seigneur, pour ce message de foi, la foi en Jésus-Christ et dans la foi dans sa parole. Seigneur, on ne veut pas simplement lire ta parole, mais on veut y croire et on veut que cette parole nous transforme, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse vivre ce message pleinement, qu'on puisse être transformé dans nos vies, Seigneur Jésus, qu'on puisse voir des âmes sauvées autour de nous, Seigneur. Oh, Seigneur, s'il y a des gens malades, qu'on puisse prier pour eux et les voir guéris. Seigneur Dieu, on veut voir la plénitude de ton esprit parmi nous, Seigneur Dieu. On refuse, Seigneur, d'être un groupe religieux, Seigneur. On refuse, Seigneur, d'être dans la tradition. Mais, Seigneur, on se positionne ce matin dans ta parole et on s'engage comme Église qu'on va être des disciples de ta parole. On va s'approcher de toi. Oh, Seigneur, on veut prier, on veut chercher ta face et on veut te connaître davantage. Alors, je te prie ce matin que tous ceux qui veulent s'engager ce matin pour prier et de lire la parole à tous les jours, qu'ils puissent lever leurs mains. Ceux qui veulent s'engager ce matin à embarquer dans ce challenge, ce défi-là, de lire 1 Jean, le premier mois, je vais vous demander de lever votre main ce matin. C'est un engagement devant Dieu. Et puis, on embarque ce matin dans ce party avec Dieu. Amen. Et Seigneur, tu as vu ces mains. Et Seigneur, je te prie que cette église puisse commencer à vivre la transformation à partir d'aujourd'hui. On a prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Moi, je crois que Dieu est content ce matin. Êtes-vous content? Que Dieu est content? Amen. Moi, je suis content d'être content.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joël Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.